Et la science aussi peut parfois faire peur. Heureusement, il y a quelqu'un au GRA pour nous l'expliquer.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Et Phileas, aujourd'hui, tu nous parles de Voyageur 2.
Et oui, aujourd'hui, Voyageur 2, je ne vais pas du tout vous faire peur en science. Au contraire, je vais essayer de vous apprendre quelque chose. Et contrairement à ce qu'a dit Rémi, on ne sera pas du tout terre-à-terre, puisque Voyageur 2 est aujourd'hui l'un des objets le plus loin dans l'espace. Ils nous ont renvoyé récemment des données sur notre bonne vieille Terre. Et donc les données que nous avons récoltées sont des données sur l'espace interstellaire. Et donc il ne sera pas question de Jedi allant à la vitesse de la lumière, ni de Buzz l'éclair contre l'infâme empereur Zurg, mais bel et bien de cette sonde qui est le deuxième objet le plus loin dans l'espace. Alors on va commencer par un tout petit peu d'histoire et retourner au 20 août 1977, date à laquelle la sonde a été lancée. L'objectif de cette mission était de collecter des données sur les planètes de notre cher système solaire avant d'envoyer ce brave engin au-delà de nos frontières. La sonde Voyageur 2 est aujourd'hui le deuxième instrument le plus éloigné, comme je vous l'ai dit, puisqu'elle se situe à plus de 18 milliards de kilomètres, donc c'est très loin. Et donc le budget alloué à l'époque pour la construction de cette sonde était de 875 millions de dollars, ce qui correspondrait aujourd'hui à 5 milliards de dollars. Et donc si on fait un calcul très rapide, ça correspondrait à 1,53 milliard de repas à 6 points au restaurant universitaire. Si vous souhaitez habiller Madame, Voyageur 2 en l'occurrence, sachez d'abord qu'elle en impose avec ses quelques 720 kilos pour environ 64 mètres cubes, dont une antenne parabolique de près de 4 mètres de diamètre et d'autres antennes ça et là qui dépassent, mesurant entre 3 et 13 mètres. Enfin, bien qu'elle ne soit pas cotée à l'Argus, la petite est dotée d'une panoplie d'instruments scientifiques pour étudier l'espace en long, en large et en travers. On peut citer un interféromètre, un spectromètre, un photopolarimètre, un magnétomètre et j'en passe. Là, ce sont en revanche des noms qui font peur et je ne détaillerai pas leur fonctionnement, ce serait totalement inutile. Parmi ces 11 instruments complexes, seuls 4 d'entre eux aujourd'hui sont actifs, l'un d'entre eux est endommagé et les autres ayant été désactivés pour économiser l'énergie de l'appareil. Pardon.
Wow, en tout cas, elle a l'air suréquipée cette sonde, mais elle a servi à quoi de beau ?
Alors cette sonde a été envoyée d'abord pour étudier et analyser les 4 planètes gazeuses de notre système solaire, donc à savoir dans l'ordre Jupiter, Saturne et ses anneaux, Uranus, puis enfin Neptune. Et donc la sonde a exploité un alignement des planètes, si j'ose dire, qui n'arrive qu'une fois tous les 176 ans, puisque Voyageur 2 a pu profiter d'un effet dit de fronde gravitationnelle sur chacune de ces 4 planètes.
Et en français, fronde gravitationnelle, ça veut dire quoi ?
Alors, pour faire simple, la sonde va frôler la trajectoire de la planète en question, ce qui va la permettre d'accélérer grâce à l'attraction exercée par le corps céleste, tout en dérivant légèrement sa trajectoire vers la planète suivante. Le principal intérêt est donc un intérêt économique majeur, puisque ça la permet d'économiser le carburant, car les stations-service ne courent pas les rues dans l'espace, la sonde est donc partie avec un plein et un seul. Toujours est-il que les photos que l'on connaît de ces planètes aujourd'hui sont celles qui nous ont été envoyées par Voyageur 2 au cours de son périple. Elle a également pu étudier les lunes de chacune de ces planètes. On peut citer par exemple Io pour Jupiter, Titan pour Saturne, Ariel pour Uranus et enfin Triton pour Jupiter, pour ne citer qu'un exemple de chacune.
Et j'imagine que si tu nous parles aujourd'hui de Voyageur 2, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose récemment.
Alors en effet, la sonde a récemment envoyé des données qu'elle a collectées depuis l'espace interstellaire. C'est un mot qui fait un petit peu peur, car donc Voyageur 2 aurait très récemment quitté le système solaire. Et alors je dis aurait, car les données que nous apporte la sonde sont inédites et donc permettent de définir plus en détail les frontières de ce qu'est le système solaire et de la définition qu'on lui apportait avant. Les avis sont donc encore mitigés. On peut toutefois affirmer qu'elle a quitté ce que les scientifiques appellent l'héliosphère, et donc elle n'est plus sous l'influence du champ magnétique de notre astre bien-aimé. Enfin, les résultats sont très frais et leur analyse incertaine, car la sonde a recueilli des données de température particulièrement élevées dans un espace très dense, remettant ainsi en cause les modèles théoriques et les autres simulations informatiques.
Et le petit mot de la fin ?
Alors le mot de la fin, c'est une petite anecdote sur Voyageur 2 qui exhibe à sa surface un disque d'or destiné à toute forme de vie extraterrestre intelligente. Donc c'est un disque comme un vinyle qui présente des gravures sur sa surface digne d'un kit de montage IKEA pour expliquer aux éventuels extraterrestres comment s'en servir. Personnellement, j'ai vu les images et j'ai rien compris alors que je sais me servir d'un vinyle. Et donc les informations contenues sur ce disque sont nos coordonnées dans l'espace, ainsi que des précisions sur tout notre système solaire, donc par les différentes planètes qu'il compose en particulier. On trouve également quelques photos de la Terre montrant sa faune, sa flore, ses paysages, les hommes et leur mode de vie, un précis d'anatomie humaine, des enregistrements de sons de la Terre allant de son naturel comme l'orage, la pluie, le vent. On peut aussi avoir des sons de pas, des salutations dans toutes les langues. Et enfin, on peut trouver de la musique allant de Mozart, Bach et Beethoven, en passant par Chuck Berry ou encore Louis Armstrong. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir rassasié ceux qui n'ont pas pu avoir l'une des 14 places au CPNS d'astronomie et avoir attisé la curiosité de tous les autres.
Merci pour ça.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Et il est 20h46, c'est l'heure de la musicienne et la musicienne ce soir pour le premier direct dans le studio pro. Elle est au complet puisqu'il y a Martin et Nathan avec nous.